Mon nom est Monique Vincent. Bienvenue au Petit carnet de l'aidant, une série de 12 balados rendus possibles grâce à l'ACF Lanaudière et le soutien financier de l'appui pour proches aidants. Dans les pages du Petit carnet de l'aidant, nous abordons différents sujets concernant les impacts financiers et fiscaux reliés à la situation des proches aidants. Nous vous offrons également un aperçu des documents légaux qui pourraient leur être utiles. Pour nous informer, nous accueillons Mme Guylaine Fauteux, conseillère budgétaire à l'ACF Lanaudière. Bonjour, Guylaine.
Bonjour, Monique.
Il n'est jamais facile d'apprendre qu'un être cher est victime d'un événement tragique menant à des incapacités ou encore que celui-ci est atteint d'une maladie dégénérative. Quoi faire dans un tel cas? Qui s'occupera de cette personne? Ce sont toutes des questions qui peuvent devenir très stressantes.
Effectivement.
Dans un précédent balado, nous avons exploré deux des mesures de protection que le curateur public a prévues pour une protection plus simple et mieux adaptée aux besoins et à la situation des personnes vulnérables. Guylaine, la dernière fois, nous avons parlé de la mesure d'assistance et de la représentation temporaire. Mais lors du dernier balado, vous m'avez laissé sur mon appétit au sujet de l'inaptitude soudaine d'une personne. Alors aujourd'hui, dites-moi, y a-t-il quelque chose que l'on peut faire maintenant à titre préventif avant de devenir inapte?
Oui, Monique. Un mandat de protection, qu'on appelait autrefois un mandat en cas d'inaptitude, peut être rédigé pendant que la personne est en parfaite possession de ses moyens. Et c'est le meilleur outil pour tenter de prévoir l'imprévisible.
D'accord. Et on fait ça comment?
Le mandat de protection peut être fait de deux façons. Donc, premièrement, le mandat peut être fait avec l'aide d'un juriste. C'est alors un document authentifié qui est inscrit dans un registre officiel.
Quand vous dites un juriste, c'est par exemple un notaire, disons.
Un notaire, un avocat.
Un avocat, c'est ça. Parfait.
Et le document est enregistré dans un registre officiel. Il est donc plus difficile à contester devant les tribunaux.
C'est vrai.
Deuxièmement, le mandat devant témoin permet à des personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller chez le notaire ou l'avocat qu'on a mentionné de mettre par écrit leur volonté. C'est un document signé par elle-même et par deux témoins qui ne doivent pas être visés par le contenu du mandat. Et c'est très important alors d'informer les proches de l'existence de ce document et de l'endroit où trouver l'original.
Et c'est tout? Il me semble que ça a l'air trop simple.
Non, ce n'est pas tout. Car pour permettre à d'autres personnes d'agir en votre nom, le mandat de protection doit toujours être homologué, c'est-à-dire qu'il doit être validé par le tribunal pour entrer en vigueur.
Et à quoi ça sert, cette homologation?
Ça sert à confirmer l'inaptitude et à valider le mandat de protection. À cet effet, les personnes désignées au mandat doivent déposer une demande, mais pas n'importe où, au palais de justice du district de la personne où la personne inapte réside plutôt. Donc, la demande doit inclure la copie du mandat ainsi qu'une évaluation médicale et psychosociale attestant de l'inaptitude. Le mandataire peut avoir recours au service d'un conseiller juridique pour l'aider dans ses démarches qui sont parfois complexes, il faut bien se l'avouer, Monique.
Oui, effectivement.
Selon la situation financière de la personne inapte, certaines dépenses, telles les honoraires d'un juriste, peuvent être défrayées en totalité ou en partie par l'aide juridique, ou à même le patrimoine de la personne concernée par la demande.
Puis qu'est-ce qui est exigé du mandataire exactement?
Le mandataire aura l'obligation de dresser un inventaire des biens de la personne inapte et il devra aussi rendre des comptes à la personne désignée au mandat de protection. Au besoin, c'est le curateur public qui pourrait être désigné pour recevoir les redditions de comptes.
D'où l'avantage de préparer son mandat de protection dès maintenant.
Tout à fait, Monique, car une fois inapte, il est trop tard pour procéder. Et tous les détails de cette procédure se retrouvent d'ailleurs sur le site du curateur public. Il y a même un modèle à compléter.
Mais dites-moi, Guylaine, qu'advient-il d'une personne qui devient inapte et n'aurait pas de mandat de protection?
Dans ce cas-ci, le curateur a prévu une mesure de protection de cette personne en situation de vulnérabilité qui a vraiment besoin d'être représentée pour l'exercice de plusieurs de ses droits. Il s'agit de la tutelle.
La tutelle, d'accord.
Le but de la réforme de 2022 étant de permettre à la personne de conserver un maximum d'autonomie, la tutelle pourra ou non être adaptée en fonction des facultés de la personne vulnérable afin de préserver son autonomie au maximum.
Ça fait souvent peur, la tutelle. Pouvez-vous nous en donner un petit peu plus de détails?
La tutelle peut faire peur, mais il y a des choses... Elle est bien encadrée. Donc, sous la tutelle, il y a certains droits qui ne pourront jamais être exercés par la personne puisqu'elle est inapte. Par exemple, percevoir les revenus d'un bien, effectuer des placements, assurer ses biens, renoncer à une succession. D'un autre côté, selon la modulation de la tutelle, la personne vulnérable pourrait continuer, par exemple, de choisir son logement, signer ou co-signer un bail, faire des achats ou des transactions pour ses besoins courants, toujours dans le respect du budget établi avec son tuteur, choisir ses fréquentations, exercer son droit de vote, tant au fédéral qu'au provincial, municipal ou même scolaire, chose que la curatelle antérieure ne permettait pas.
Je comprends. Et qu'arrive-t-il dans le cas où une personne jugée inapte redeviendrait apte? On peut facilement penser ici, par exemple, à quelqu'un qui aurait fait un AVC et qui réussirait à s'en remettre complètement.
Dans ce cas, une demande de fin de tutelle pourra être soumise au tribunal.
C'est aussi simple que ça. J'aime ça, des réponses comme ça, Guylaine. Et pour connaître tous les détails, on peut se référer, je présume, au site web du curateur public?
Toujours, et c'est une très bonne idée.
Voilà ce qui conclut notre série de 12 balados du Petit Carnet de l'aidant. Au travers de ces pages, j'ai appris que de soutenir, de partager et d'aider d'autres personnes fait partie des plus grandes récompenses de la vie. Mon nom est Monique Vincent. Merci à la CEF Lanaudière et l'Appui pour Proches Aidants pour cette belle opportunité d'avoir pu produire ces balados et merci à vous pour votre écoute. Pour obtenir plus d'informations, les proches aidants d'aînés peuvent contacter le service Info Aidant de l'Appui au 1-855-852-7784 ou la CEF au 1-866-414-1333. Je vous laisse avec une dernière citation, mais non la moindre, de Nelson Mandela. Il ne peut y avoir de plus grand don que celui de donner son temps et son énergie pour aider les autres sans rien attendre en retour.